Je suis un peu leur conseiller sur la question.
RFI Musique.
Merci d'écouter RFI, les 7h30 à Paris et Kinshasa, une heure de moins en temps universel. L'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. C'est la une ce matin, l'après-sommet de Dar es Salaam, lors duquel les communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe ont appelé ce week-end à un cessez-le-feu dans l'Est de la RDC. Et après cela, hier, légère accalmie sur le front au sud Kivu. La diplomatie du Rwanda affirme veiller au respect de la trêve par la partie congolaise. Vous entendrez le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et pendant ce temps, la diaspora congolaise manifestait à la Bruxelles pour dénoncer notamment l'inaction des Européens, quand les défenseurs des droits de l'homme appellent, eux, à la levée du blocage des réseaux sociaux en RDC. Plus de 100 000 enfants toujours privés d'école au Cameroun, conséquence des graves inondations qui ont frappé l'extrême nord du pays dans la deuxième moitié de l'année 2024. On fera le point là-bas avec l'UNICEF. Il était surnommé le vieux et il était surtout connu comme le père de l'indépendance de la Namibie. On reviendra sur le parcours de l'ex-président Sam Nujoma, décédé ce week-end à l'âge de 95 ans. Et puis, notre dossier ce matin sur un marché florissant en Afrique du Sud, c'est le cas de le dire, la production et le commerce du cannabis, désormais légal à des fins privé et médical. Et cette année, l'État délivrera pour la première fois des diplômes officiels dans le secteur. Que va-t-il se passer maintenant sur le terrain dans l'Est de la RDC ? Réunis ce week-end dans la capitale tanzanienne, l'EAC et la SADC ont donc appelé à un cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le M23, soutenu par le Rwanda. Une trêve dont la mise en œuvre effective nécessitera encore une réunion dans les prochains jours des chefs des forces de défense des deux organisations. Et cela afin de définir les modalités techniques. Mais d'ores et déjà, une accalmie a été constatée hier sur le front dans la province du Sud Kivu. Et quand Kinshasa déplorait quelque peu l'absence de condamnation contre Kigali, eh bien de son côté, la diplomatie rwandaise s'est pleinement félicitée des conclusions du sommet de Dar es Salaam. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungiré, se dit désormais attentif au respect de cette trêve par le gouvernement congolais. Je vous propose de l'écouter.
Le M23 AFC avait déjà annoncé un cessez-le-feu unilatéral il y a quelques jours. Nous espérons cette fois-ci, puisque le sommet conjoint incluait le président Félix Tshisekedi qui était en ligne, va respecter ce cessez-le-feu afin d'ouvrir la voie à toute l'assistance humanitaire qui est nécessaire, mais aussi ouvrir la voie à un dialogue politique que nous appelons tous de nos voeux.
Le communiqué final demande l'implantation du CONOPS signé l'année dernière et qui prévoit la levée des mesures défensives rwandaises au niveau de la frontière. Aujourd'hui, est-ce que le Rwanda va lever ces mesures ?
En fait, c'est le Rwanda qui a proposé ce point particulier, la référence au CONOPS que nous avions adopté le 25 novembre, donc la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Et donc, nous espérons qu'avec la bonne foi et l'engagement de la RDC que nous appelons de nos voeux, que cela va faciliter la mise en application de tous nos engagements dans la région.
Le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Ndungiré, qui répondait à Lucie Mouillot. Une guerre dans l'est de la RDC qui est suivie de près sur la scène internationale, on l'a compris, et qui est suivie de près par la diaspora congolaise également, très représentée notamment à Bruxelles, la capitale belge qui abrite des institutions de l'Union européenne et où plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier pour afficher leur soutien à l'intégrité de la RDC et pour dénoncer ce que les manifestants jugent comme l'inaction des Européens. Sur place, reportage signé Elena Loison.
C'est dans un froid glacial que le cortège s'élance sous la pluie depuis la place Lumumba au cœur de la capitale belge, direction les institutions européennes.
Aujourd'hui, on est là pour dénoncer la complicité de l'Union européenne dans les massacres à l'est du Congo. Ce qu'on veut, c'est des sanctions. Ce qu'on veut, c'est le retrait des troupes de notre territoire qui est occupé.
Geneviève, co-organisatrice et membre du collectif Mémoire Coloniale, demande que l'Europe se positionne face au Rwanda.
En premier lieu, ici, c'est le retrait de ces accords de coopération en matière militaire, en matière d'acheminement de ressources naturelles qui ont été signées ici ces dernières années avec le gouvernement rwandais.
Dans le cortège, on se réjouit de la demande de cesser le feu. Mais à l'instar d'Aminata, venue avec son fils, les manifestants voudraient aller encore plus loin.
Dans un premier temps, un cessez-le-feu, c'est bien. Mais je pense qu'il faut prendre le problème plus sérieusement. Il y a quand même des dommages collatéraux. C'est des vies qui ont été enlevées. Donc les sanctions, c'est déjà des excuses sincères. Et après, je pense qu'on a déjà eu beaucoup d'exemples de comment est-ce qu'on peut réparer ces genres de choses.
Les manifestants attendent surtout des pays occidentaux qu'ils accroissent leur pression sur le Rwanda pour le faire céder, comme en 2012, lorsque le M23 s'était emparé de Goma. Elena Loison, Bruxelles, RFI.
Et en tout cas, pour l'heure, à des milliers de kilomètres de là, sur le terrain congolais, je vous le disais, accalmie des combats au sud Kivu, une province où plusieurs dizaines de militaires congolais et de membres des milices locales Wazalendo ont d'ailleurs été interpellés hier. Des éléments accusés d'exactions contre des civils dans un village près de Bukavu. Accusation lancée par des habitants après la mort d'au moins 7 personnes, mais les autorités ont réagi avec une enquête et ces interpellations dans la foulée. Et dans ce contexte de guerre en RDC, les défenseurs des droits humains appellent par ailleurs à la levée du blocage des réseaux sociaux, notamment les applications X et TikTok, suspendues depuis une semaine pour limiter la diffusion des informations sensibles. Mais pour Jean-Claude Katende, le président de l'ASADO, l'Association africaine des droits de l'homme, il s'agit tout bonnement ici d'une atteinte grave au droit à l'information des citoyens.
L'appel que j'ai lancé au gouvernement va dans le sens de demander la levée de la mesure qui bloque certains réseaux sociaux. On a bloqué ces réseaux, mais il y a beaucoup de Congolais qui ont déjà contourné cette mesure, qui est en fait une violation du droit à l'information, en accédant à d'autres applications qui permettent en fait l'accès facile aux réseaux qui sont bloqués. Nous considérons que cette mesure aujourd'hui ne frappe que des pauvres qui n'ont pas de possibilité d'accéder à ces réseaux par d'autres mesures. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont utilisés pour plusieurs raisons. Pas nécessairement pour partager l'information, mais il y en a qui les considèrent comme un outil de travail pour gagner de l'argent, pour former les gens. Et donc, nous considérons que c'est une mesure qui devient discriminatoire au-delà du fait qu'elle viole le droit à l'information et favorise la désinformation des Congolais.
L'alerte de Jean-Claude Katende est face à cette situation en RDC. Notons tout de même que l'un des loisirs les plus populaires va reprendre ses droits. Après plusieurs semaines d'arrêt, le championnat national de football va en effet se poursuivre selon un calendrier établi samedi lors d'une réunion entre les dirigeants de la fédération, de la ligue et des clubs. Un calendrier qui intègre justement la situation sécuritaire dans l'est du pays.
RFI.
Les conséquences à présent des graves inondations qui ont frappé en fin d'année dernière l'extrême nord du Cameroun. L'eau sur place a désormais commencé à se retirer, mais pour la plupart des sinistrés, tout est à rebâtir. Près d'un demi-million d'habitants concernés, dont de très nombreux déplacés qui ne peuvent pas rentrer chez eux faute de moyens. De très nombreux enfants également, victimes les plus fragiles et privés pour nombre d'entre eux d'école encore aujourd'hui. Victoria Martinez est la chef des urgences pour l'UNICEF Cameroun, mobilisée sur place en partenariat avec des organisations locales, et elle fait un point de terrain pour nous.
C'était la rentrée scolaire. Il y avait 262 écoles qui ont été détruites ou endommagées, et ça a affecté plus de 100 000 élèves. Beaucoup ne sont plus sûrs pas retournés. Donc, soit ils se sont déplacés, ils n'ont pas pu retourner, soit leurs parents ont perdu tous les moyens, donc ils ne peuvent pas payer pour les frais scolaires. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enfants qui ont déjà perdu 4 mois d'éducation de l'année scolaire. Il faut aussi savoir que la région de l'extrême nord, c'est aussi la plus pauvre du Cameroun, pas seulement affectée par les catastrophes naturelles comme les inondations, les poches de sécheresse, mais aussi par les épidémies récurrentes. Et puis aussi le conflit du bassin du lac Tchad et les conflits intercommunautaires. Donc c'est vraiment dire que les inondations se sont ajoutées à tous ces problèmes, touchant une population déjà extrêmement vulnérable.
Le bilan de Victoria Martinez de l'UNICEF Cameroun. Un fils de fermier devenu le père de l'indépendance namibienne. L'ex-président Sam Nujoma a tiré sa révérence samedi à l'âge de 95 ans. Lui qui avait changé l'histoire de son pays en cofondant la SWAPO en 1960, un mouvement de libération qui affranchira la Namibie de la tutelle sud-africaine 30 ans plus tard en 1990. Sam Nujoma, lui, quittera finalement le pouvoir à 75 ans en 2005 après avoir fait modifier la constitution pour s'assurer un troisième mandat. Il aura donc mené une vie politique, une vie militante riche, comme nous l'explique ce matin Christine de Gémeaux, professeur à l'université de Tours en France et spécialiste de l'histoire contemporaine de la Namibie.
Sam Nujoma avait un fort caractère. Il a voulu agir pour la libération de son pays. Les Ovambo, l'ethnie à laquelle il appartenait, étaient traqués. Il a dû partir en exil. Il est exilé, notamment au Ghana, aux États-Unis, mais aussi en Angola, où il a formé une des premières cellules de ce qu'on a appelé la SWAPO, c'est-à-dire l'organisation de libération du peuple. Et il en est devenu le leader incontesté. En plus, il avait, je pense, un rayonnement humain fort, un charisme à la fois sympathique et en même temps extrêmement ferme et décidé. C'est un homme qu'on pourrait placer aux côtés de Mugabe ou de Mandela. Il était fortement engagé, évidemment, anticolonialiste dans la mondialisation contre l'Occident, je dirais. C'est un personnage du Sud global.
Christine de Gémeaux, enseignante chercheuse. Un nouveau débouché, un nouveau marché en Afrique du Sud pour notre dossier du jour. Le secteur du cannabis qui se développe, décriminalisé dans le pays depuis 2018. Cette plante psychotrope est aujourd'hui autorisée pour un usage privé et médical depuis l'an passé. Et cette année, en 2025, une étape importante de ce processus, la reconnaissance par l'État d'un certificat supérieur au métier du cannabis. Concrètement, cela veut dire que pour la rentrée qui approche, une trentaine d'étudiants intégreront une formation déjà existante à la Shiba Academy au nord de Johannesburg, et ce sera ainsi la première promotion à recevoir un diplôme officiel au terme d'une formation complète. Reportage Valentin Hugues.
Avec Coquetso Montlamé, on enfile notre blouse blanche. C'est un ancien élève de la Shiba Academy.
Je désinfecte vos chaussures.
Devenu professeur en charge du module plantation.
Voilà, bienvenue. Nous sommes ici dans la salle de culture. Je supervise la plantation et le développement du cannabis. Ce sont des plantes photosensibles. Il faut donc apprendre à régler la lumière en fonction des différentes phases de culture.
La culture du cannabis, c'est l'un des piliers de cette nouvelle formation reconnue par l'État qui débute dans quelques semaines avec 30 étudiants. Linda Siboto, cofondateur de la Shiba Academy.
Plus de 100 personnes ont demandé à s'inscrire. Donc en ce moment, on les appelle et on les sélectionne. Les jeunes qui seront acceptés vivront ce moment historique en devenant les premiers étudiants en Afrique à recevoir une formation en cannabis de niveau supérieur. Salut Ti, je configure juste l'appel.
Au téléphone, Trenton Birch, responsable de ce cursus d'un an.
Nous avons dû nous battre pendant 4 ans avec son lot de bureaucratie et souvent le manque de compréhension du cannabis. Et je ne vais pas vous mentir, c'était assez éprouvant. Mais nous y avons cru parce que, selon nous, plus on entraîne, plus on forme les étudiants, plus cette industrie va se professionnaliser.
Rentrée le mois prochain pour ces étudiants qui seront ensuite prêts à intégrer le marché florissant du cannabis. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
Et ces premiers diplômés du cannabis en Afrique du Sud, ils seront donc formés à la Shiba Academy, on vient de l'entendre, pour alimenter une industrie qui promet de créer quelques 130 000 emplois au total. Mais cela va coûter cher, 4 000 euros pour un an de formation, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et les licences d'État pour faire pousser ensuite du cannabis et le commercialiser coûteront cher elles aussi. Alors face à ce système qui se met en place, ceux qui cultivent le cannabis à des fins thérapeutiques depuis des générations avec un savoir-faire ancestral craignent quant à eux de disparaître. C'est le cas notamment de Bonkem Fanexio, cultivateur dans le sud du pays justement.
J'ai grandi dans une famille de cultivateurs de cannabis. À l'époque, ce n'était pas légal. On ne laissait pas les gens cultiver du cannabis, mais ils ont choisi de le faire quand même, pour vivre, pour construire des maisons, pour nourrir leurs enfants et les envoyer à l'école. Le problème, c'est que depuis la législation, on ne gagne plus d'argent, notamment à cause de la concurrence, parce qu'il y a une exclusion des cultivateurs ancestraux en faveur de ces nouvelles entreprises. On espère que les étudiants formés à l'industrie du cannabis sortiront des grandes villes et se déplaceront ici, pour travailler avec nous, cultivateurs des campagnes, aussi pour nous enseigner ce qu'ils ont appris à Johannesburg, par exemple. Il ne faut laisser personne de côté. Si nous travaillons tous ensemble, il y aura une très bonne industrie du cannabis en Afrique du Sud.
Bonkem Fanexio, cultivateur traditionnel de cannabis en Afrique du